A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Faire rentrer une mélodie de Charlie Parker dans un camp de réfugiés syriens au Liban, désormais c'est possible avec Fawaz Baker. Un nom qui circule comme le lait sur le feu auprès de ces naufragés de la guerre. Alors, ce Fawaz Baker, c'est qui ? D'abord, c'est un amoureux de la terre, né en Syrie, exilé aujourd'hui sur les bords de Seine. Ensuite, c'est un amoureux de la musique, note bleue ou quart de ton, c'est un multi-instrumentiste qui regarde le beau, quelle que soit la musique. Mais il y a un petit souci dans ce portrait en sol majeur, c'est que Fawaz Baker n'aime pas trop se retourner sur ses vies antérieures. Ancien architecte, ancien directeur du conservatoire de musique d'Alep, il respecte l'antique, mais je crois qu'il n'aime pas trop l'ancien. Pour lui, qui a peut-être tout perdu, ce qui compte, c'est de vivre ici et maintenant, ici en France, où il concilia avec les ménestrels bretons, voire son association Quartz, et maintenant dans ces camps de réfugiés au Liban, où trois écoles forgent l'esprit de ces enfants de la guerre à reconnaître le beau dans une note de musique. Bonjour Fawaz Baker.
Bonjour.
Est-ce que vous croyez que ça s'apprend, la beauté ?
Oula, question très difficile et très vaste. Oui, je pense que oui. Je ne suis pas quelqu'un qui croit beaucoup aux dons. Donc ça s'apprend, oui.
Est-ce qu'il faut seulement du travail ?
De la sensibilité. Est-ce que la sensibilité demande du travail ? Oui, peut-être. De la sensibilité, sensibiliser. Voilà, le mot c'est sensibiliser les autres, contaminer. Oui.
Qui est un autodidacte brillant en matière de musique notamment. Racontez-nous un peu, vous êtes né à Alep en 1959, dans un foisonnement d'identité qui nous intéresse.
Oui, je viens d'une famille qui était divisée sur les histoires du moment, c'est-à-dire au début du siècle, du 20e, entre laïcs et religieux en fait. J'ai un grand-père maternel, son père était moufti d'Alep. C'est comme ça qu'on nous sommes arrivés à Alep, en fait, d'ailleurs. Parce que le père de mon grand-père, en fait, il a été nommé dans l'Empire comme moufti, en fait, qui était une fonction religieuse. De l'autre côté, de la mère de ma mère, en fait, son père était l'un des officiers de Mustafa Kemal, en fait. C'est eux qui ont donné...
Qui ont modernisé,
oui, qui ont tué l'Empire, oui.
Selon les interprétations.
Voilà, exactement. Et puis moi, j'ai toujours baigné en fait là-dedans, entre ces deux camps qui se sont mariés finalement dans ma famille.
Donc entre grande laïcité et grande religiosité ?
Alors la religiosité, en fait, elle n'a rien à voir avec la religion d'aujourd'hui. Hein. C'était une tendance soufie plutôt, c'était une tendance doux. C'est pas la religion en tant que programme politique et idéologique comme ça se pratique aujourd'hui.
Donc dans cet arbre généalogique, un peu de Turc, un peu de Syrie, un peu de Kurde aussi.
Oulala, c'est très compliqué. Oui, effectivement, mes quatre grands-parents, ils sont complètement différents. Il y a un arabe, il y a un turc, un kurde et un tcherkesse. Mon père, vu le nom Abdinara, en fait, je pense qu'on était des notables. Donc c'est vrai que je viens de là. Mais je ne défends absolument pas mes origines, hein, parce que je ne les ai pas choisies. Donc du coup, tout simplement, je n'ai pas choisi d'être un homme, par exemple. Donc moi, le fait de dire homme ou femme, c'est... oui.
Ce foisonnement d'identité que vous effleurez comme ça, Fawaz Baker, dans cette Syrie d'Hafez al-Assad, qui, je le rappelle, prenait à l'époque un nationalisme pan-arabe, est-ce que ça a eu des conséquences sur vous ? Est-ce que vous étiez perçu comme, entre guillemets, un vrai arabe ? Avec ses origines kurdes, ottomanes.
Alors, nationalisme, c'est ce qui a été annoncé. Hein. Tout ça, c'est que des titres.
En réalité, il se passait quoi ?
Dans la réalité, en fait, on vit dans une ville qui parle quand même 5-6 langues, hein, avec une dizaine de religions. Après, oui, il y avait un discours de nationalisme arabe, effectivement, qui a commencé avec Nasser et qui était en réaction à notre défaite, je pense, avec Israël en 1948. Je veux dire, ils ont voulu faire pareil, quoi. Et du coup, non, je pense pas que ça nous a influencé, même si il fallait saluer le drapeau tous les matins à l'école, ça me faisait ni chaud ni froid. Et puis plus tard, évidemment...
Vous n'avez pas adhéré, vous, à ce nationalisme-là, qui était en tout cas sur la scène politique internationale?
Mon père, il était nassérien. Parce que sa laïcité, elle a détourné en assyrien. Donc à la maison, j'étais bien servi de cette tasse-là. Et c'est vrai que j'ai trop bu de cette tasse. Donc non, non. L'arabité, non. Le nationalisme, de toute façon, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. De pas bien. Voilà. Lapsus. C'est vraiment pas bien.
Alors il y a effectivement cette défaite face à Israël. Grand traumatisme vécu par les Arabes lors de la guerre des six jours. Toutes les télés du monde, ce jour-là, sont allumées.
Il y a tout juste trois semaines, Nasser lançait à la face du monde des propos pleins d'assurance. Depuis quelques jours, il n'est plus apparu en public. La défaite reconnue, il doit s'adresser au peuple et s'expliquer.
Je me souviens qu'un caméraman pleurait en même temps qu'il filmait. Le chef d'équipe des caméramans a dû lui enlever sa caméra pour que nous puissions continuer l'émission.
Nasser démissionne. Il a à peine terminé son discours que des milliers, puis des centaines de milliers d'Égyptiens sortent dans les rues. En larmes, ils crient et le supplient de rester.
Nasser qui démissionne juste quelques heures sur RFI, les Égyptiens qui sortent dans la rue. Le monde arabe sort dans la rue. Que font les Syriens et que fait surtout la famille Baker ce fameux 6 juin 67, Fawaz Baker?
Ah bah, ils étaient en train de pleurer comme tout le monde et moi en tant que gamin avec tous les cousins, en fait, on a été virés dans le jardin parce que comme ça tous les grands peuvent pleurer comme ils veulent. Et après coup, je vais être dur, je vais être très dur avec ça. Je me demande si on ne mérite pas tout ce qui nous arrive. Parce que le fait de rappeler Nasser après une défaite comme ça, c'est vraiment ne pas faire son devoir personnel vis-à-vis du monde. Et je pense que c'était une faiblesse qui continue d'ailleurs. Malheureusement, le printemps arabe, il est devenu ce qu'il est devenu. C'était vraiment quelque chose qui pouvait donner quelque chose.
Et de la responsabilité de ces dirigeants type Nasser, etc. Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'échec de ce printemps arabe ?
De toute façon, ils ne méritent pas plus que la poubelle de l'histoire, tous ces gens-là.
C'est dur ce que vous dites.
Non, ce n'est pas dur. Je pense qu'il est dur, c'est toute la réalité que nous avons vécue depuis. Parce que les militaires, quand ils sont apparus du pouvoir en fait, dans le monde arabe à partir des années 50, le résultat est là.
Vous êtes né, Fawaz, dans un milieu aisé, votre père gynécologue, votre mère avocate. Est-ce que la culture, avec un grand C majuscule, avait de l'importance dans la famille?
Absolument pas. Par contre, l'éducation, oui. L'école, oui. Et moi, c'est curieux, mais c'est grâce à l'école que je me suis sensibilisé à tout ce qui est poésie, à tout ce qui est... Parce qu'en voulant être bon élève, comme c'était comme ce qu'on me demandait, et ben je me suis intéressé. Et finalement, la poésie m'a eu. Non, on n'est pas, à part quelques disques que mes parents emmenaient de leur voyage de Russie ou de l'Égypte. Je pense que ma culture musicale, elle s'est faite avec ça.
Donc votre multiple sensibilité, elle se retrouve dans quelques notes de musique. Alors, que vous inspirent ces trois planètes musicales rapidement comme ça, le rock des Beatles, le tango d'un Astor Piazzolla et le oud de votre Wadj Ensemble, Fawaz Becker?
Oui, effectivement, c'est mon monde, en fait. Les Beatles, oui, j'ai ouvert les yeux, en fait, en tant qu'adolescent, en écoutant du Beatles et du hard rock. Et Piazzolla, c'est venu plus tard, quand j'ai eu la sensibilité vis-à-vis du jazz. Et la musique orientale, c'était en continu. Depuis que j'ai écouté ma tante, en fait, à l'âge de 3 ans, jouer du oud, je pense que j'étais contaminé à jamais, en fait, à être assoiffé de musique tout le temps, absolument tout le temps. Et c'est vrai que l'ensemble Wadj, c'est le résultat de tout ce mélange, finalement.
Donc l'autodidacte que vous êtes va, ce que je comprends, va apprendre un peu sur le tas, la musique, à la fois auprès de grands maîtres de musique et puis dans des orchestres. Est-ce qu'on peut parler d'une scène underground dans cette série des années 70-80?
Oui, mais très très réduite. On était deux groupes, un de Damas et un d'Alep, et on était regardés de travers réellement. Vu la longueur de nos cheveux, vu notre comportement social... Et vu surtout la musique et le bruit qu'on faisait, parce qu'on faisait vraiment, c'est très simple, hein, pour faire du hard rock bien, il faut jouer le plus fort possible d'abord.
D'accord. Et alors ce Syrien beatnik, là, aux cheveux longs, qui faisait beaucoup de bruit, qui saturait ses guitares, il n'a jamais été inquiété par le régime d'Hafez al-Assad? Passé entre les gouttes?
Oui, je pense qu'on était des clowns plutôt, on était pris pour des clowns et c'est pas mal.
Vous jouez combien d'instruments?
Une dizaine, pas très bien, mais une dizaine, oui. Bon, je joue des cordes, je joue de la guitare, de oud, essentiellement du oud, de la contrebasse, percussion, piano, guitare, etc.
Je ne sais pas si on peut se faire un petit truc à la bonne franquette, comme on dit musicalement, puisque vous êtes venu avec votre percussion là. Mais je me demandais si votre voix chantait autant les Beatles qu'un chant soufi d'Alep.
Alors ça fait partie de ce répertoire énorme de la ville. La ville d'Alep, c'était un conservatoire, mais dans le sens propre du terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des chants égyptiens d'il y a 100 ans ou 150 ans que les Alépins connaissent, que les Égyptiens ont oubliés. Et des morceaux turcs également. Les Alépins, ils sont très conservateurs dans leur goût culinaire et dans leur goût architectural et dans leur goût musical. C'est vraiment les trois piliers de la vie à Alep, en fait, ça. Et ce que j'aimerais bien, en fait, chanter ici, c'est deux vers de poésie composés ou écrits par une femme poète de la ville de Homs, il y a 200 ans, Mohamed Tellawiye. Voilà, j'y tiens, et c'est vraiment une très 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 belle mélodie à 9 temps, mais simple, qui s'écrit en fait en une ligne mélodique.
Allons-y.
Voilà, allons-y. Bon, ben, on va essayer, hein. Il faut que je trouve ma tonalité, mais bon. Aïdlana dhikra al-ahbab yaman ghada yasbil al-bab. Aïdlana dhikra al-ahbab yaman ghada yasbil al-bab. واروي حديثا عنهم طاب واروي حديثا عنهم طاب وانفي بهم عنا الأنصاب وانفي بهم عنا الأنصاب بهم غدا عيشي صافي وحبهم لدائي شافي والوصل منهم لي كافي والوصل منهم لي كافي فكم وكم عما الطلاب فكم وكم عما الطلاب.
Vous chantez les yeux fermés, vous voyez quoi quand vous chantez, Fawaz Becker?
Je regarde à l'intérieur, comme tout bon musicien doit faire. Grâce à mes oreilles, mes yeux se retournent vers l'intérieur. Il y a mon maître Abdelkader Hadjar, mon grand maître, qui est mort il y a 30 ans, qui m'a dit un jour, si tu veux bien chanter, peu importe si tu as une belle voix, il ne faut surtout pas envoyer les chansons vers l'extérieur. Il faut vraiment ramener le monde à l'intérieur de toi au lieu de rejeter ce que tu sais faire vers l'extérieur.
Autoportrait.
Pour faire le portrait de Fawaz Baker, je crois qu'il faut prendre des pierres éternelles de celles qui peuvent raconter l'architecte, et puis le directeur du conservatoire de musique d'Alep, et puis le citoyen activiste culturel qui croit aujourd'hui en la note bleue. Alors je sais que vous n'aimez pas trop cet exercice, c'est-à-dire vous retournez sur ces vieilles pierres, mais quand même, c'est intéressant pour nous. Ce goût pour l'architecture, quand on vient d'Alep, justement, une ville qui ressemble ou qui ressemblait à un livre de pierre, c'est pas rien.
Oui, effectivement. J'ai eu de la chance de vivre dans deux villes très belles qui sont Alep et Paris. C'est vrai que moi, tous les jours, quand je me balade à Paris, je suis dans un œuvre d'art. Je trouve que Haussmann a fait vraiment des très très belles choses. Et à Alep, c'est pas tout à fait la même chose. Alep, vu le sens de conservatisme en fait, qu'il y avait dans la ville, eh ben, on a répété des formes qui sont des formes millénaires. Et c'est vrai que c'est très très enrichissant. Je veux dire, les yeux et les oreilles, ils sont pleins de bonnes proportions, du mathématique dansant. Donc ça m'a sensibilisé. C'est vrai que l'architecture m'a beaucoup beaucoup servi en musique après. Hein. C'est vrai que la mathématique, en fait, ça sert à faire voler des avions. Mais ça sert surtout à faire des belles proportions de calligraphie et des belles mélodies aussi.
Alors moi je reviens à votre parcours, Fawaz Baker, parce que je pose une question sur l'architecture et on se retrouve en musique.
C'est, oh bon c'est oui, mais c'est vrai ça. Que c'est mon intérêt aujourd'hui.
Oui.
Mais, bon.
Mais on va y venir. Donc vous êtes à Paris à 20 ans, vous allez être diplômé d'architecture.
Je venais juste d'être diplômé à Alep.
Le Caire, fin des années 80, vous y restez pendant 4 ans, puis vous retournez en Syrie. Ma question est simple, est-ce que vous êtes un chercheur qui, lorsqu'il trouve, s'en va ?
Oui. Je pense que dès que je sens que j'ai plus rien à apprendre, dès que je sens que je suis l'assurance du savoir, je pars, oui. Et je me déplace pas seulement physiquement. Je me déplace aussi de métier, je change de vie, je change de maître, je change de sensibilité, tout simplement parce que, oui, la vie, c'est un fleuve. Et donc, il faut savoir nager là-dedans. Et on n'est pas sur un sol solide. Hein.
Vous prenez un virage à 180 degrés en 2005, je crois, puisque vous passez de l'architecture directe à la musique.
Alors que 130 vous êtes... degrés.
Pourquoi ? C'est quoi la différence pour
vous ? Il y a 50 degrés, en fait, de commun entre les deux.
Ah d'accord, ouais. Vu comme ça, d'accord. Ouais. Donc en 2008, vous êtes le directeur du conservatoire d'Alep. Un directeur heureux ?
Non. Non, non. Enfin, heureux, oui, parce que c'est bien, mais...
Pourquoi non ?
Parce que j'avais pas les conditions pour bien travailler, je veux dire. Je rentre dans un conservatoire, il y avait deux camps. Un camp de musique classique occidentale et un camp de musique classique arabe. Et puis, ils se chamaillaient tout le temps et les uns considéraient que les autres jouaient des fausses notes. Et du coup, chacun, par esprit de défense, ils ont dit, voilà, celui-là, il appartient à l'autre camp. Et finalement, je suis parti sans pouvoir les réconcilier. Mais j'ai tout fait pour le faire, quitte à emmener des rappeurs dans ce conservatoire qui était bourré de classicisme.
Est-ce que vous pensez que cette mini-guerre, comme ça, entre ces deux écoles musicales qu'il y avait au sein du conservatoire de musique d'Alep, il y avait quelque chose de précurseur, quelque chose qui annonçait cette fameuse révolution syrienne que vous avez vu venir, Fawaz Baker?
Tout à fait. Vous êtes en train de souligner quelque chose à laquelle je crois énormément, c'est que la sensibilité artistique d'une société, c'est elle qui va dessiner son avenir. Et quand on ne fait pas assez attention à ça, c'est-à-dire à cette sensibilité artistique, on va finir par faire la guerre avec les mains et les armes.
Mais à quel signe vous avez senti approcher, venir cette révolution?
C'est justement quand je suis parti du conservatoire en tirant la nappe. On est arrivé jusqu'à un moment en fait, où les profs ne sont pas payés parce que les uns traitaient les autres des colons et les autres traitaient les indigènes et des imbéciles de locaux.
Alors Fawaz Baker, il y a quelque chose que j'aimerais que vous nous racontiez pour les auditeurs dans Sol Majeur. Ça pourrait presque ressembler à une scène de film. Vous êtes à Alep, je ne sais pas exactement en quelle année, un Alep bombardé en 2011, en 2012.
2012 plutôt. Enfin.
Et vous êtes coincé par la guerre dans un drôle d'endroit.
Un jour, en 2011, j'entendais un appel à la prière de la mosquée d'à côté, en disant que l'armée libre s'est emparée de la zone. Et puis c'est devenu une zone frontalière, en fait, pendant 4 ans quand même. Donc la maison, je ne pouvais plus rester. Il y avait plein de snipers tout autour, etc. Et j'ai résisté 6 mois, 7 mois. Après, c'était invivable. Donc j'ai déménagé chez mes parents. Et chez mes parents, ça se trouve qu'il y avait des snipers autour aussi.
Quel quartier ?
Dans les quartiers ouest, en fait, qui sont des quartiers aisés, mais qui sont complètement du côté régime. Hein. Mais malgré ça, il y avait quand même des affrontements. Et du coup, il y avait des snipers aussi à l'extérieur. Et je ne pouvais pas accéder à tout ce qui est fenêtre dans l'appartement. Donc, j'étais obligé de rester dans la salle de bain. J'ai installé mon lit, mon studio d'enregistrement dans la salle de bain.
Grande salle de bain.
Oui, elle était un peu grande, oui. Elle n'était pas parisienne, en tout cas. Et je pense que c'est l'année où j'ai le mieux travaillé de ma vie, en fait, en musique.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette
salle de bain ? Je me suis débarrassé de tout ce qui était carrière, en fait. Je me suis débarrassé de tout ce qui était argent. Je me suis débarrassé parce que dans la guerre, en fait, la première chose à faire, c'est de rester en vie. Donc le temps était tout à moi. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas d'obligation. Et du coup, j'étais vraiment complètement, complètement libre de faire la musique que je veux. Et cette musique-là, elle s'adressait à personne. Elle s'adressait à elle-même. Parce qu'il n'y avait pas d'avenir. L'avenir était bouché quand même, en fait, pour nous. Je pense que je puise dans cette année-là jusqu'aujourd'hui. Je veux dire, je suis en train d'écrire pour l'Orchestre de Chambre de Paris.
Pour un concert en 2019.
Pour un concert en 2019, oui, à la Philharmonie. Et bien, toutes ces mélodies-là, elles viennent de cette période-là.
C'est dommage qu'on ne puisse pas en entendre un tout petit bout.
Bah, si vous pouvez emmener l'orchestre de chambre,
il n'y a que 2019, voilà.
Il y a que 45 musiciens. Hein.
Bon, d'accord. Oui. Dans votre salle de bain, donc.
Voilà.
شهدوا على شفاف سكب كل عين وعيونك دفايم حي عن عيوني الطعم كل عين وشفافك وعد شهدوا على شفاف سكب بعرف أنا ماني أنا والعمر غفلني وهرب بعرف أنا ماني أنا والعمر غفلني وهرب معلوم شايب هالشعر ظهر انحنى عمر خرب يا شام يا ضم التعطر يا شايفة مني العجب حبك أنا وباقي أنا حبك عطول بلا سبب حبك أنا بس الوجع فوق الوصف والموت واصل الركب ومهما كنت باقي إلك قلبي صفي وحده بحلب.
Pour un seul majeur sur RFI, Fawaz Becker qui est finalement sorti vivant de sa salle de bain syrienne. Et ce tango pour Alep qui a été composé il y a 3 ans, donc en dehors de la Syrie. Que disent les paroles de cette chanson très mélancolique, hein ?
Oui, est-ce que c'est le mot ? Non, c'est plutôt romantique, oui, mais oui. C'est des paroles d'un poète d'Alep qui s'appelle Nail Hariri. J'ai trouvé ces paroles-là sur Facebook, je les ai lues. Et dès que j'ai lu, je me suis fondu en larmes et la mélodie est sortie tout de suite. Donc je l'ai enregistrée 5 minutes après. Ce que vous avez entendu, ça a été enregistré 5 minutes après la lecture de la poésie avec le choc émotionnel.
Mais que dit le poème alors ?
Le poème, il parle de quelqu'un qui a voyagé partout dans le monde en ayant son cœur accroché à Alep. Et c'est vrai que ça parle de la mort, en fait. C'est avoir le cœur accroché dans un endroit de la mort.
Որտեղ է ձեզ համար օտարամայի ճամփաները։
Pour vous,
ailleurs,
c'est où?
C'est ici. C'est partout où on se retrouve. Si on n'arrive pas à vivre dans le ailleurs, le ici ne peut pas exister. Je pense que le ici et le ailleurs sont un couple. D'ailleurs, la première capacité d'un être humain, c'est de pouvoir voyager. Nous, nous sommes faits avec nos jambes et pas avec nos têtes. L'homo sapiens, le premier homo sapiens qui a quitté l'Afrique et qui est allé partout dans le monde, qui s'est déplacé. C'est pour ça que je refuse complètement le mot réfugié. C'est pour ça que je refuse complètement le mot étranger.
Tu dirais quoi? Oh, je vous ai tutoyé tout à coup.
Oui.
Comment je vais dire du coup? Parce que je voulais vous entraîner sur un ailleurs et dans ce qu'on appelle les camps des réfugiés syriens au Liban. Parce que vous y avez eu, vous n'êtes pas seul, une belle idée là-bas de transmission avec une certaine Basma Al-Husseini qui est égyptienne, hein, je crois.
Oui.
Comment vous avez eu l'idée ensemble de monter des écoles dans ces camps, pas très loin de la frontière syrienne?
Alors elle, de sa part, elle avait l'idée de monter les écoles parce qu'elle est très pratique. Et moi, dans ma tête, j'avais énormément de mélodies que j'ai appris avec mes anciens maîtres qui sont morts il y a vraiment des décennies. Et du coup, j'avais envie vraiment de ne pas emmener ces mélodies avec moi, voilà, dans mon tombeau. Du coup, je voulais tout simplement les passer à des jeunes. Et puis, on s'est rencontrés à l'UNESCO comme ça. Et le problème, c'est qu'on n'avait absolument pas d'argent. On n'avait rien pour commencer ce truc-là. On n'avait que des bonnes idées. Et finalement, quand on a les bonnes idées, ben, on arrive à les réaliser. Et ça marche. Et justement, pour revenir à cette histoire de ici et ailleurs, pour ces enfants-là, la France n'est pas ailleurs. Tout ce que je vis en France, je la porte à ces gamins, et tout ce que je vis avec eux là-bas, je la porte ici. Donc il n'y a pas de ailleurs. Plus les chemins sont grands, plus il y a de la place pour le monde, je veux dire. Il ne faut pas rétrécir les chemins du monde.
Alors il y a trois écoles. Il y en a une qui est située à Amman, donc en Jordanie. Il y en a une dans le camp de réfugiés de Shatila, pas très loin de Beyrouth. Elle n'existe plus.
Les deux, ils sont dans la Beka aujourd'hui.
D'accord, c'est l'école de Bar Elias, la plaine de la Beka, donc à l'est du Liban. On va écouter quelques témoignages de cette action culturelle appelée Action for Hope.
Je m'appelle Ragda. J'aime tellement la musique. La musique m'apprend beaucoup, comme les rythmes, les gammes. J'aime la musique et me sens apaisée quand je l'écoute.
Quand j'ai commencé l'école de musique, j'ai appris de nouveaux rythmes et je suis devenue capable de chanter.
Mon nom est Mohamed Ibrahim Al-Dalati. J'ai débuté à Action pour l'Espoir à l'école et j'ai appris à chanter et à jouer des instruments de musique. La musique me touche et me fait penser que j'ai un merveilleux talent et un avenir.
Extra en sol majeur sur RFI de Action for Hope, une action pour l'espoir que vous menez, Fawaz Baker, au sein de ces camps de réfugiés, pardon pour le mot, syriens, au Liban. Dit. Quelle est la philosophie, quelle est l'éthique de Action for Hope? Qu'est-ce que vous attendez de ces gamins?
Alors l'idée, c'est que le secours n'est pas seulement une couverture et un repas. Le secours stratégique, c'est la culture. Parce qu'on ne va pas finir la guerre avec des repas et des couvertures. On va finir la guerre avec des chansons. D'une part, et d'autre part, contre l'extrémisme, je veux dire, si les choses arrivent aux armes, à la police et aux armées, c'est déjà trop tard. Il faut vraiment, dans tous ces camps où il y a des gens abandonnés par le monde entier. Nous, à Bar Elias, au Liban, les gens, ils sont venus ici de la Syrie à pied. Ils n'avaient même pas une voiture pour les transporter. Ils sont venus à pied. C'est les gens les plus démunis de la société syrienne qui ont été bombardés, qui continuent à être bombardés. Par le monde entier, d'ailleurs. Hein. Je ne parle pas du régime seulement. Hein. Et du coup, l'extrémisme, en fait, je veux dire, les radicaux, ils ont un terrain très, très fertile pour convaincre les gens. D'ailleurs, c'est eux qui s'occupent de ces gens-là, plus ou moins.
Ils sont dans la solidarité.
Voilà. Et nous, si on ne fait pas une action, en fait, contre ça... Les gens, quand ils ont eu les mauvaises idées dans la tête, c'est déjà trop tard. Hein. Je veux dire, c'est pas en payant de la police ou de l'armée, en fait, qu'on va pouvoir arrêter tous les attentats ailleurs ou la Syrie. Donc moi, je pense que c'est du secours stratégique, c'est-à-dire dans le sens où de ramener tous ces gens-là à une vie, entre parenthèses, normale pour moi. Et pour moi, je considère que chaque enfant que je forme pendant 2 ans, c'est vraiment un kamikaze dans l'autre camp. Moi, j'ai fait 50 auditions la première année. Cette année-là, j'ai fait 600. Ce qui veut dire que la musique, c'est une affaire qui contamine. Et tout autour de ces gamins qui chantent, il y a toute une société qui se forme, qui aime la musique. Et dans cette société, elle est quand même très, très difficilement contrôlée par les islamistes ou par les autres, hein, je veux dire. Surtout que nous, on accompagne les enfants aussi pour faire une carrière, c'est-à-dire ils ramènent de l'argent. Parce qu'il y a très, très peu d'argent, en fait, dans tout ça. Les gens, ils sont dans des camps des réfugiés, ils payent leur emplacement aux propriétaires du terrain. Donc, ils vivent avec $1 par jour, etc. Et quand une fille de 13 ans arrive à faire un concert et ramener en fait 100 ou $150 à la maison, ça commence quand même à prendre de l'ampleur tout autour parce qu'il y a un espoir pour sortir. Je néglige absolument pas le côté matériel de tout ça. Et du coup, voilà, je suis débordé de demandes aujourd'hui et c'est vraiment très bien.
Est-ce que vous avez des trajets de vie, des exemples de trajets de vie à partager avec nous, de ces gamins qui se retrouvent comme ça, naufragés de la vie, on va dire, et un exemple racontant le fait que la musique peut effectivement être à la fois un baume et une colonne vertébrale pour un être humain?
Voilà. Moi, je pense que le premier naufragé, en fait, de cette affaire-là, c'était moi. Moi, j'ai fait ça pas pour sauver les autres. Hein. Ils m'ont sauvé. C'est un échange avec les enfants. Je les regarde jamais en tant que réfugiés ou en tant que malheureux. Non, ces enfants, c'est des enfants comme tous les autres. Ils n'ont pas eu le droit à l'école. Donc, il faut que je répète mon modèle à moi de l'école, etc., en essayant de leur proposer autre chose.
Mais ils vous ont sauvé, ces gamins, comme vous dites, Fawaz Becker.
Oui.
Ça veut dire quoi? Que vous avez, vous sentiez une dette aussi envers cette Syrie délabrée?
Je me sens en dette vis-à-vis de la vie en entière, pas seulement de la Syrie. Je ne considère absolument pas que je fais un bien quand je respire dans ce monde. Hein. C'est plutôt le contraire. Je veux dire, je suis là pour améliorer ma vie et la vie des autres autour de moi. C'est le seul concept que j'ai de la vie.
Vous êtes un saint, vous, je sens.
Non.
Alors, il y a comme une énorme émotion qui a rempli le studio dans Sol majeur, parce que je viens de prononcer un mot malheureux, Fawaz Becker. Pourquoi vous réagissez tant, si fort à ce mot de saint? Si je vous dis que vous êtes un saint,
Parce que je me sens seul. Et quand on prononce le mot saint, on les met à part. Je veux dire, ce que je suis en train de faire, c'est de tout normal, quoi. Et je trouve que c'est malheureux de se sentir seul sur une action pareille.
Qui finance Action for Hope?
Oh là là, plein de monde. On a été financé, en fait, au départ, par l'Institut Goethe, en fait, au départ, par l'UNESCO, en partie, par le British Council, par Ford Foundation. En fait, c'est toujours du financement plutôt européen. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup français. Hein. Et Basma, elle n'arrête pas de m'emmener comme la mendiante avec son bébé qui pleure. C'est moi le bébé qui pleure. Parce que les gens, ils donnent pour une année. Ça n'a pas de sens, ce qu'on fait. Si on monte toute cette structure-là, parce qu'elle commence vraiment à donner ses fruits, et qu'on l'arrête après par manque de financement, voilà.
Alors il y a ceux qui sont pris dans la tourmente de la guerre là-bas, et puis il y a ceux qui se font embrigader par le fondamentalisme ici.
Quand je suis devenu salafi, on partait plutôt du principe que, même en ayant formulé l'attestation de foi, le musulman restait toujours suspecté de commettre de l'association du shirk, c'est-à-dire le fait d'adorer une autre divinité dans cette communauté, sans s'en rendre compte. Et on était toujours dans la peur d'y tomber, même dans les choses les plus anodines de la vie de tous les jours. Et le fait d'aimer un chanteur, par exemple, le fait d'aimer une star. Donc je me privais de tout loisir, de toute activité, de tout ça, c'était vraiment à bannir. Et quand je suis devenu djihadiste, là, la notion de tawhid, ou d'unicité de Dieu, avait pris encore un nouvel aspect. puisque ça concernait aussi tout ce qui est rentré dans le domaine politique, l'application de la loi. Il ne fallait appliquer que la loi divine. Et appliquer une autre loi ou accepter même de se soumettre à une autre loi que celle de Dieu, c'était considéré pour nous comme mettre cette loi au même niveau que Dieu et donc comme être de l'association. Et comme on était dans cette démarche de vouloir corriger le mal, non pas uniquement par la parole ou le cœur, mais par les actes, par les mains, donc il fallait absolument prendre les armes pour créer cet État qui serait régi par les lois divines. C'était vraiment quelque chose d'indispensable et on ne pouvait pas être considéré même comme musulman monothéiste tant qu'on ne vivait pas sous un pays qui était régi par les lois divines.
Sur RFI pour en sol majeur, un des témoignages du centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, centre de Dounia Bouzar, très controversé d'ailleurs, hein, et qui en termes de déradicalisation, c'est le terme qu'on emploie, ne donne pas du tout les résultats attendus. Et je me dis, en vous écoutant, Fawaz Becker, qu'en la matière, ben, on aurait besoin d'un Fawaz Becker ici aussi dans nos banlieues. Est-ce que vous auriez des idées pour ici ?
Bon oui, il y a besoin de la musique en fait partout. Surtout là où il n'y en a pas. Je veux dire, il faut vraiment faire attention à tous les endroits où il n'y a pas de musique.
Ça, c'est pour vous, endroits... c'est un révélateur. Ça.
Ah oui, c'est très révélateur, oui. Je pense que l'idée de la musique dans la société du monde arabe dans ces derniers temps et les subventions qui étaient accordées pour la musique étaient tellement ridicules qu'il fallait attendre à une guerre, oui.
À part la musique, qu'est-ce que vous aimez dans la vie ?
L'architecture.
Ah quand même, je croyais que vous étiez fâché avec le mot.
Absolument pas. Au contraire, ben je fais de l'architecture du son hein, en faisant de la musique. À part ça, oui, j'aime bien manger. Je pense que c'est mes trois activités principales.
Manger, bâtir, écouter.
Bonsoir à tous, 16 talents dans la course. 16 talents qui reprennent le tube de Ed Sheeran avec leurs 4 coachs. C'est ainsi que commence le premier live de la 6e saison de The Boss.
Toi, si tu t'aimes, prends garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi.
J'y comme j'aime, j'aime pas.
The Voice.
Qu'est-ce que ça veut dire The Voice ?
Une sorte de radio crochet. Vous ne connaissez pas The Voice ?
Non.
Jamais entendu parler ?
Si. Maintenant que vous me le dites, oui, je vois. C'est pour trouver des talents ou n'importe. Ouh là là, c'est du n'importe quoi. Enfin, je veux dire, cette histoire de sélection déjà en fait dans la musique, elle est inhumaine. On cherche quoi là ?
C'est le principe de sélection qui vous dérange d'emblée.
Il y a le principe de sélection et il y a le mot talent qui exclut les autres. Vous savez, pour faire de la musique, il faut avoir une cinquantaine de talents qui sont contradictoires. Après, parler d'une belle voix en disant que c'est comme ça qu'on va faire la musique, non. Parce que dans une belle voix, il n'y a pas de dissonance. Et la laideur et la beauté, ils sont très très proches. J'aimerais bien quand même développer ça pour
Ah bah alors attendez, je vais vous aider. On va prendre deux exemples justement pour comprendre en quoi beauté et laideur peuvent être très proches. Premier exemple.
Ana mouch kafir bas el joua kafir. أنا مش كافر بس المرض كافر أنا مش كافر بس الفقر كافر والذل كافر.
Voilà, on est avec le grand compositeur libanais Ziad Rabani, accessoirement fils aîné de Fayrouz, hein, quand même. Il incarne quoi alors pour vous, Fawaz Becker ?
Ah bah, ce que vous venez d'entendre, il était en train de chanter. Ce mec, il n'a pas une belle voix. Il chantait une gamme qui était le siga, qui est une gamme qui est composée que de fausses notes pour une oreille occidentale. Mais il fait une très belle chanson. parce que la chanson, elle raconte que je ne suis pas mécréant, et il racontait tous les autres mécréants, pourquoi ils sont mécréants. Et je trouve que c'est de l'antithèse qui donne un sens à la vie. C'est quelqu'un qui est le fils d'une famille de compositeurs. Tout ce qu'il a fait, ce mec, dans toute sa vie là, c'est de contrarier en fait là où il vient. Ça, pour un chanteur arabe conventionnel, c'est pas écoutable, hein, parce que c'est jugé comme du n'importe quoi. Moi, j'adore.
Deuxième exemple. Igor Stravinsky, donc, sur les platines dans Sol majeur. Alors là aussi, hein, les oreilles qui n'ont pas été chicotées par des années d'apprentissage peuvent passer à côté de cette alors beauté ou laideur.
Oh ben justement, dissonance, oui. Et Stravinsky, c'est quelqu'un qui a été sensible à plein de musiques extra-européennes. Et du coup, il a ramené en fait la vie dans ces musiques-là. Parce que quand Stravinsky est arrivé, la musique européenne, elle se cherchait en fait. Et en architecture, les choses s'éclataient parce que l'époque, c'était l'époque de l'art, de l'art nouveau et après l'art déco. Et on commence vraiment à explorer l'espace, etc. Parce que l'Occident a fait une immigration de l'oreille vers l'œil ces dernières 200 ans. Pendant que l'œil s'éclatait avec les couleurs, avec les peintres, etc., la musique peinait à trouver autre chose. Et puis c'est grâce au jazz, c'est grâce au blues d'abord en fait, et au jazz en fait qui vient d'ailleurs, que Stravinsky a été sensible et il a relancé. Et tout ce qui est venu après est conditionné, pas seulement par Stravinsky, mais par tout un mouvement en fait qui annonçait du Django Reinhardt par exemple, parce que c'était pas possible de faire du jazz français en fait s'il y avait pas Stravinsky derrière. Et lui, il a puisé sa beauté dans la laideur.
J'ai pas compris, en fait, finalement, après une heure dans sol majeur, si vous étiez plutôt, justement, en tant que musicien, un sol majeur ou un sol mineur ?
Non, je suis plutôt un sol mineur, définitivement. Sol, oui, j'adore. La note, pas le sens enraciné. En principe, le mineur, c'est quelque chose de triste, de mélancolique, de féminin, de lunaire. Et le majeur, par contre, c'est quelque chose de masculin, de... Mais l'humain est très pervers. Avec l'imaginaire, en fait, tous les chants funèbres, ils sont en majeur plutôt qu'en mineur. Et le mineur, quand on le chante, on essaye toujours de le chanter d'une manière gaie. Moi, ce que j'aime bien, de toute façon, quand j'ai un mode, c'est de contrarier sa nature.
Exemple.
Oula. دلاهي فول ما جاب يا عين عيني بالخالي والجيدي تنانم ça c'est un sol mineur et il est chantant. Par contre, de l'autre, إن الله وملائكته يصلون على النبي مولاي يا c'est pour annoncer la mort, et c'est en majeur. Donc, cette possibilité de la musique de raconter quelque chose et son inverse en même temps, c'est quelque chose que la parole ne peut pas faire. Le discours est dangereux parce qu'il ne peut pas raconter quelque chose et son inverse. La force de la musique, c'est qu'elle arrive à faire ça.
Elle inclut la nuance.
Voilà, elle inclut la nuance et la contradiction. Quand la musique est absente, c'est que les gens, ils sont en train de se diviser en camps, et c'est vraiment le début de la guerre.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Fawaz Becker, beaucoup de musique, et notamment, c'est à noter sur vos agendas, une rencontre impro au BH Café le 22 mai, avec pas mal de musiciens. Il y aura des concerts aussi au Petit Théâtre du Quartz les 23 et 24 mai. Une rencontre musicale à la médiathèque de Plouguerneau, donc tout ça c'est en Bretagne, le 25 mai. Et puis très important, vous organisez en décembre prochain, Fawaz, un colloque autour de l'espace et du temps, et tout ça dans le cadre du festival No Border. Oh, hey. va refermer cette sonne majeure, ben justement avec votre univers à vous, Wadj Ensemble, et ce titre, Aya Wanedin, qui veut dire
Le Nadim, c'est l'accompagnant de la beuverie. C'est celui, c'est la personne avec qui on boit et on s'amuse dans la vie.
Viens, on va s'en jeter un.
On va regarder la beauté du monde. C'est ce qu'il dit les paroles.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur Pure Radio. Bien sûr, derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec une rediffusion autour du grand Ivry Gitlis. À la semaine prochaine.